Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Doucet. Donc, je vais commenter le sujet de cette année de DCG en finance d'entreprise en UE6. Alors, ce sujet, donc, pour une durée de 3 heures avec un coefficient 1, où dans lequel vous aviez le droit à la calculatrice, il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue, était composé de 3 dossiers indépendants. Un premier dossier diagnostic financier sur 11 points, un deuxième dossier plan de financement sur 6 points et un troisième dossier marché obligataire 3 points. Alors, tout d'abord, les généralités. Ce sujet, notamment dans les dossiers 2 et 3, à mon sens, ne posait pas de problème particulier. On va y revenir. Bon, pour le dossier 1, le diagnostic financier, là, c'était le problème, c'était long pour arriver à tout faire dans les temps. Hein, j'espère que vous avez suivi les conseils que j'avais donnés, notamment donc à Cantalia, bien sûr, de travailler en fonction des points alloués à chaque dossier. Pour ne pas tomber dans le piège qui consiste, comme souvent, à commencer par le premier dossier, donc le diagnostic financier, dans lequel il y a le tableau des flux de trésorerie de l'ordre des experts comptables qui était à l'intérieur. Et beaucoup d'entre vous, vous commencez par ce type de tableau et vous perdez beaucoup de temps parce que, en général, il n'est pas équilibré. Vous essayez à tout prix de l'équilibrer, vous perdez beaucoup de temps et donc beaucoup de points. Donc le piège, à mon sens principal, était de ne pas commencer par cette partie-là, ou en tout cas de ne pas commencer par le tableau, parce que j'ai toujours recommandé, bien sûr, de commencer par répondre aux questions de cours dès que c'était possible. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Alors, je vais commencer par le dossier numéro 3 au niveau du commentaire. Donc, il s'agissait dans ce dossier numéro 3 du marché obligataire. Alors là, il y avait une première question, cité de risque inhérent à la détention d'une obligation. Bon, mais là, pas de difficulté majeure pour ceux qui avaient travaillé le cours, bien entendu. Hein. Bon, risque de hausse des taux d'intérêt, risque de change, hein, si jamais vous avez une obligation dans une devise différente de l'euro, mais il peut aussi... on peut parler aussi d'un risque d'inflation, si le taux d'inflation est supérieur au taux de rendement de l'obligation, bien entendu. Et puis, évidemment, risque de faillite de l'émetteur, très rare dans la réalité, mais enfin, on peut pas l'exclure, bien entendu. Ensuite, deuxième question, rappeler la formule permettant de déterminer le prix d'achat de l'obligation. Alors ça, c'est dans le cours en long, en large, en travers, dans les lives, dans les vidéos, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, le prix d'achat de l'obligation, autrement dit le prix à payer, c'est la cote de l'obligation au pied du coupon plus les intérêts courus. Donc là, c'était objectivement pas très difficile puisqu'on avait la cote de l'obligation au pied du coupon à 98% de la valeur nominale, puisque ça, évidemment, il fallait avoir travaillé le cours et savoir que la cote est exprimée en pourcentage de la valeur nominale. Donc la valeur nominale était en 1098%, au pied du coupon, ça fait 980. Et après, il fallait rajouter les coupons courus. Alors là, je pense, enfin je suis même à peu près sûr, que les correcteurs seront relativement larges là-dessus, parce que il y a un petit problème sur le nombre de jours. Il n'est pas écrit, alors ça veut dire que dans l'énoncé, ça veut dire que les candidats étaient censés savoir que au nombre de jours, il fallait rajouter en France 3 jours ouvrés. Voilà, alors je ne sais pas si beaucoup de candidats ont pensé à rajouter ces 3 jours ouvrés, mais je pense pas que vous soyez pénalisé énormément si vous n'avez pas compté les 3 jours ouvrés. Et par ailleurs, je pense aussi que il y aura une certaine tolérance sur le nombre de jours. Moi, j'ai trouvé 48 jours, hein, mais je pense que alors donc il y a ceux qui n'auront pas mis ces 3 jours et qui auront compté sur 40, donc 45 jours. Et puis est-ce que ça va être 45 ou 44? Voyez, bon, je pense que là-dessus, c'est pas ça qui vous empêchera d'avoir l'examen. Par contre, là où vous seriez sûrement pénalisé, c'est, rappelez-vous, il faut bien compter sur 365 jours et pas sur 360 jours pour les emprunts obligataires. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite, donc là, à partir de là, hein, moi j'ai trouvé un coupon couru à 3,29 et donc un prix à payer à 900 83,29 €. Donc, il peut y avoir un petit écart avec certains d'entre vous ou même avec la correction officielle du rectorat, enfin de l'auteur, hein. Mais je pense que ça, à cause du nombre de jours, il y aura une certaine tolérance là-dessus. Troisième question, apprécier l'évolution du cours de cette obligation depuis l'émission. Bon, ben là, c'est tout simple, hein, je veux dire, sachant que la cote d'une obligation varie inversement proportionnellement à la hauteur des taux d'intérêt, eh bien, entre la date d'émission et le 15 mai ici, les taux d'intérêt ont augmenté, donc la valeur de l'obligation a diminué mécaniquement, c'est obligatoire. D'accord? Quatrième question, expliquer l'intérêt pour un investisseur d'insérer au sein de son portefeuille de titres actions des valeurs obligataires à taux fixe. Bon, ben voilà, hein, là aussi c'est classique, c'était franchement ça, pas difficile, hein. Ben, les obligations sont moins risquées donc que les actions, puisque un, si vous avez des obligations, vous êtes certain de percevoir des intérêts chaque année indépendamment du résultat de l'exercice, contrairement aux obligataires qui, eux, ne perçoivent que des dividendes, qu'à la condition, bien sûr, que le résultat soit positif, alors que soit un bénéfice, alors qu'avec les obligations, c'est pas le cas, puisque quel que soit le résultat, de toute façon, les obligataires perçoivent les intérêts dans les obligations rémunérées à taux fixe, bien sûr. Et deuxième cas, bien sûr, grande différence en termes de sécurité, puisque en cas de faillite de l'entreprise, les obligataires passent bien avant les actionnaires pour récupérer toute ou partie du capital qui a été investi dans l'entreprise. D'accord? D'ailleurs, souvent, quand l'entreprise fait faillite, les actionnaires, souvent, ne récupèrent rien, alors que les obligataires passent bien avant, donc c'est donc moins risqué. Okay? Donc, je considère très honnêtement que ce dossier 3 de marché obligataire pour 3 points n'était pas très difficile. Surtout, je vous dis, je pense qu'il y aura une certaine tolérance concernant le nombre de jours pour les coupons courus. Est-ce que moi j'ai trouvé 48, est-ce qu'il y en a qui vont mettre 44? Alors les 3 jours ouvrés, c'est sûr qu'il est faux. Mais enfin bon, comme c'était pas précisé en annexe, est-ce que vous serez pénalisé? Je pense pas là-dessus. Mais après, est-ce que certains ont mis 44 jours ou 45 jours? Bon, c'est pas très très grave. Ensuite, je vais passer au dossier numéro 2, le plan de financement, qui valait 6 points. Alors là, très honnêtement, je considère que c'était le dossier le plus facile, parce qu'il n'y avait aucune difficulté à mes yeux, concernant ce plan de financement. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas d'horreur, il n'y avait pas d'ambiguïté dans l'énoncé, comme quelquefois ça peut arriver. Donc là, s'il y avait bien un sujet par lequel il fallait commencer, à mon sens, après avoir répondu aux questions de cours, toujours pareil, c'était ce plan de financement, parce que là, vraiment, il n'y avait pas de difficulté. Alors sinon, bien sûr, mais c'est quand même la moindre des choses quand on se présente en DCG, en finance d'entreprise, de savoir calculer une annuité d'amortissement, hein, une annuité constante, bien entendu, hein, ça, évidemment, c'est la condition, parce que le tableau d'amortissement de l'emprunt, bon, c'était simple. Calculer la CAF, bon, ben là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, vous aviez dans le cours, dans les cas pratiques, dans les lives, dans les vidéos, dans les devoirs, il y a toujours des CAF de partout, toujours, d'accord? Y compris dans le tableau, ensuite, la variation du BFR, c'est un grand classique, vous l'aviez à la fois, encore une fois, dans le cours, dans les lives, dans les cas pratiques, dans les devoirs, en fait, tout ce que vous voulez, partout. Et le plan de financement lui-même, bon, ben, franchement, un grand classique, rien de, pas de difficulté majeure à mon sens. Pour ceux qui avaient fait, encore une fois, les cas pratiques qui étaient sur la plateforme et suivi le cours, bon, je crois pas, en toute humilité et en toute sincérité, qu'il y ait beaucoup de difficultés là-dessus. D'accord? Après avoir, cinquième question, après avoir commenté brièvement le plan de financement obtenu, proposer 3 solutions qui permettraient de résoudre le problème rencontré. Bon, ben là aussi, hein, il n'y a pas de, on s'apercevait que il y avait des déficits de trésorerie dès le début de la première année et à la fin de la première année. Après, ça s'arrangeait. Donc, il faut essayer de trouver des ressources pour essayer que la trésorerie soit tout le temps positive dans le plan de financement. Donc, des apports en compte courant qui pourraient ensuite être remboursés assez rapidement, visiblement. Ben, emprunter un petit peu plus, OK? Et diminuer, essayer de diminuer le BFR dans la mesure du possible. Enfin bon, le plus probable, c'est, on serait dans le monde réel, je dirais, le plus probable, c'est d'essayer d'apporter des en compte courant pendant un an ou deux pour essayer de combler ce déficit. Mais franchement, hein, ces dossiers 2 et 3 qui à eux deux valaient 9 points, je pense que il était assez facile d'avoir 6 points, vous voyez, à mon avis 6 points sur les 9, d'accord? Donc, ceci dit, en admettant que ce que je dis soit ce qui s'est passé, il fallait aller chercher quand même 4 points sur le premier dossier qui était donc le dossier de diagnostic financier, qui est encore une fois un grand classique, puisque tous les ans, vous avez le droit, bien sûr, conformément au pronostic que j'avais fait, à un diagnostic financier avec une part des parties théoriques et puis des parties techniques et puis évidemment des commentaires. D'accord? Donc là, ça valait 11 points. Donc c'est vrai que c'était une partie importante. Alors après, à l'intérieur, première question, rappeler l'utilité de la partie 1 du tableau de financement dans le cadre de l'élaboration du diagnostic financier. Vous voyez, ça c'est typique du genre de question à laquelle il faut répondre dès le départ, parce que ça c'est un grand classique, c'est facile, il n'y a pas de quoi se mettre la tête à l'envers avec ça, il n'y a pas de problème. Deuxième question, retrouver le montant de la CAF. Retrouver les acquisitions d'immo corporels, retrouver le montant des remboursements des dettes financières. Alors, le problème, alors pour retrouver le montant de la CAF, alors ce qui était bien quand même, c'est qu'on connaissait le montant de la CAF parce que il était dans le, on avait en annexe la première partie du tableau de financement, donc on voyait que la CAF était de 26 880, ce qui normalement a peut-être dû aider certains des candidats, parce qu'au moins vous saviez combien il fallait trouver. Là où je suis un tout petit peu plus réservé, vous le verrez dans la correction, là je vais pas rentrer dans les détails, c'est que en voulant quelquefois simplifier le travail des candidats, les auteurs, en fait, en voulant simplifier, pour ceux qui sont un peu affûtés, ça pose plus de problèmes qu'autre chose, à force de vouloir simplifier, notamment ici le problème du détail de retrouver le compte 675 VCEAC, être capable de faire la séparation entre le 775 et le 777, c'est-à-dire sachant qu'à l'intérieur de ces postes, il peut y avoir les produits et les charges exceptionnelles sur opération de capital. Donc, soit on se contente de ce qu'il y a, dans le compte de résultat sans se poser la question, mais est-ce qu'il peut y avoir du compte 678, 778, parce que sinon ça viendrait modifier. Enfin, vous voyez, ça compliquerait un petit peu pour ceux qui vraiment étaient affûtés, ça aurait pu leur faire perdre du temps, comme je le fais dans la correction pour vous démontrer ces petits soucis, pour vérifier que ce soit que ces éléments qu'il n'y en ait pas de 678 et 778, ça fait perdre un petit peu de temps. Ou alors, évidemment, on s'en rendait pas compte et on pouvait aller évidemment plus vite, d'accord. Mais bon, ça c'est un classique quand on veut. Souvent, les auteurs quand ils veulent aider les candidats, quelquefois, ça simplifie, mais ça simplifie beaucoup. Ensuite, deuxième partie, montant des acquisitions d'immo corporel. Bon, ben là, il faut le savoir, hein, ça fait partie du cours, hein, ça, il n'y a pas de souci, vous l'aviez. Là aussi, c'est quelque chose à savoir. Aucun commentaire particulier. De la même façon, montant des remboursements des dettes financières. Alors, simplement, petite remarque. Normalement, il est bien précisé que, en théorie, selon la règle de l'art, on doit bien séparer le raisonnement pour chacun des types d'emprunts et on ne doit pas mélanger les types d'emprunts, évidemment, sauf quand c'est pas possible. Or, ici, ce n'était pas possible de séparer le raisonnement pour chacun des types d'emprunts parce que les intérêts courus et les concours bancaires, on savait pas exactement, pour 2018 notamment, à quel type d'emprunt ça se référait. Est-ce que c'était les emprunts auprès des établissements de crédit ou emprunts et dettes financières diverses. Voilà, donc dans ce cas-là, comme prévu dans le cours que j'ai pu écrire, eh ben on raisonne avec les deux types d'emprunts en même temps et on retrouve évidemment du coup les éléments qui apparaissaient dans le tableau de financement première partie. D'accord ? Troisième question, expliquez brièvement pourquoi la connaissance et la maîtrise de l'évolution du BFRE sont essentielles pour éviter les problèmes de trésorerie. Là, franchement, cadeau, ça, hein, évidemment, hein, le BFR vient assécher le fonds de roulement net global et donc diminuer la trésorerie nette. Plus vous avez de BFR, moins vous avez de trésorerie, bien entendu. D'accord? Après, rappelez la signification des ratios suivants: rentabilité économique avant impôt, capacité de remboursement des dettes financières, durée du crédit client. Procéder à leur calcul pour 2018. Alors là, bon, alors toujours pareil, là aussi, tout le monde, tous les auteurs de France et de Navarre ne sont pas tout à fait d'accord pour les façons de calculer les taux de rentabilité économique, les taux de rentabilité financière, etc., etc., comme je vous le dis dans le cours, dans les lives, dans les cas pratiques, etc., etc. Okay. Simplement ici, on avait quand même les ratios de l'année précédente, donc on pouvait quand même, si on avait un doute, calculer celui d'avant pour être sûr de la façon dont c'était calculé. Mais là aussi, vous voyez, conformément à ce que je disais tout à l'heure, comme il n'y avait pas d'informations. Alors qu'il y a plusieurs façons de calculer un taux de rentabilité économique, pour ceux qui ont vraiment travaillé, ça a pu leur faire perdre de temps, puisque du coup, ils ont été obligés de tester par rapport à ce qu'il y avait avant pour être sûr et certain que c'était la bonne méthode. D'accord? Donc, voilà. Alors ça, encore une fois, hein, c'est pas que ce soit difficile, hein, un taux de rentabilité économique, c'est un résultat économique divisé par des moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat économique. Tout le monde est d'accord pour dire ça, mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un résultat économique? Quels sont les moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat économique? Ah, là, selon les auteurs et selon les circonstances, ça diffère. Donc c'est ça un peu, vous voyez, la difficulté. Alors heureusement qu'on avait quand même 2017 pour faire le calcul, je l'ai vérifié, vous verrez, et bon, il n'y a pas de difficulté, hein, ça veut dire qu'ils ont utilisé le résultat d'exploitation au numérateur et au dénominateur capitaux propres plus emprunt. Donc, ceci dit, c'est classique, c'est celle que je préconise aussi dans le cours. D'accord? Donc, voilà, après, ratio de capacité de remboursement des dettes financières. Donc là, il y a aussi deux façons de présenter, je suis désolé, mais il y a deux façons de présenter cette capacité de remboursement. Bon, c'est pas très grave, là, c'est moins difficile, enfin, c'est moins ambigu. C'est soit on dit c'est les dettes à plus d'un an sur la CAF, soit la CAF sur les dettes à plus d'un an. D'accord? Évidemment, la signification est la même, mais le résultat arithmétique, évidemment, lui, n'est pas le même. Il n'y avait pas d'informations concernant la façon de faire, mais enfin, comme l'année 2017, il y avait marqué 8,92 et que le secteur, c'est 2,50, on peut supposer raisonnablement que la façon de calculer, c'était bien les dettes sur la CAF et pas la CAF sur les dettes à plus d'un an, parce que sachant que le ratio, quand on fait les dettes à plus d'un an, il faut pas que ce soit supérieur à 3. D'accord? Donc, comme là, il y avait 2,50 dans le secteur, 8,92, a priori, c'est plutôt ça qui a été utilisé, bien entendu. D'accord? Donc, ça, c'était pas très difficile. Après, ratio de la durée des crédits clients. Alors là aussi, tout le monde va pas trouver la même chose. Je pense que là, il y aura une tolérance vis-à-vis de la part des correcteurs, parce que là aussi, le délai client, la philosophie, c'est créance client et contrat attaché divisé par chiffre d'affaires net TTC, le tout multiplié par 360. Ok, ça tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires net? Qu'est-ce qu'on appelle les créances clients et les comptes rattachés, par exemple? Est-ce que, alors pour le chiffre d'affaires, bon, pas de souci, c'est quand même le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la production plus la TVA collectée, hein, puisque c'est bien du TTC qu'il faut utiliser. Ça, par contre, il fallait pas se tromper. Et donc là, il y aura, à mon avis, il y aura pas de latitude. Si vous avez oublié la TVA, là, vous allez vous faire pénaliser. Par contre, pour les créances clients et les comptes rattachés, bon, là, bien sûr, les créances clients et comptes rattachés du bilan comptable, mais après, normalement, il faut rajouter les effets escomptés non échus, mais là, il n'y en avait pas. Et après, moi, je rajoute les écarts de conversion actifs et je retire les écarts de conversion passifs liés aux créances clients, et là, il y en avait, des écarts de conversion active. Bon, vous voyez, tout le monde n'est pas, voilà, ça dépend, là, c'est quelque chose qu'on peut faire ou pas, ça dépend des auteurs, des querelles de chapelle, etc., etc. Je pense que là-dessus, il y aura une certaine latitude. Et retirer les avances et acomptes reçus, là aussi, ça me paraît logique. Donc, le délai de règlement des clients, c'est pas que ce soit très difficile, mais il y avait quand même plusieurs, il risque d'y avoir plusieurs possibilités et quelques jours d'écart selon ce qu'on a intégré dans le montant des créances clients et contrats attachés, mais là je pense que là aussi il y aura une certaine latitude chez les correcteurs et qu'il n'y aura pas de soucis majeurs. Vous serez pas pénalisé si par exemple vous avez comme moi rajouté les écarts de conversion actifs ou vous ne les avez pas rajoutés. Je pense que les deux versions seront acceptées. Comme encore une fois, il n'y a pas de loi qui dit que ça doit être comme ça. Et comme on n'avait aucune information en annexe, bon ben voilà, hein, il peut y avoir de temps en temps des différences. Cinquième partie, et c'est là où le gros du travail dans ce dossier, ce qui était long, c'est alors d'abord 5.1, objectif essentiel d'un tableau de flux de trésorerie. Bon, ça, pas de souci, grand classique, bien sûr. Et deuxième partie, 5.2, tableau de trésorerie de l'ordre des experts comptables. Alors là, c'était, je l'avais un peu anticipé lors des pronostics, hein, c'était avec l'option 2, c'est-à-dire le résultat d'exploitation. Mais bon, ça c'était pas encore le pire parce que ça, j'allais dire, ça tombe régulièrement. Bon, c'est un peu plus compliqué à mes yeux qu'à partir du résultat de l'exercice. Mais ceci dit, bon, voilà, ça existe. Non, ce qui moi me gêne un petit peu plus, c'est que ce tableau qui est donné en annexe, c'est un tableau entre guillemets, j'allais dire maison. Et c'est pas le vrai tableau de l'option 2 avec les intitulés exacts. Alors ceci dit, bien sûr, évidemment, hein, on retrouve heureusement bien sûr les principaux éléments. Bien sûr, il n'y a pas d'ambiguïté, mais notamment par exemple, vous voyez, en partant du résultat d'exploitation, après il est écrit plus ou moins amortissement et provision, dotation nette des reprises. Dans l'option 2, c'est pas vraiment ce qui est écrit au départ, hein. Charge d'exploitation calculée, produit d'exploitation calculé. Voyez, par exemple, on n'est pas tout à fait dans le. Ça veut dire la même chose, mais voyez, voilà, ça a pu perturber certains d'entre vous. Pareil, après pour les autres encaissements et décaissements de l'activité, voyez, plus ou moins produits et charges financières, plus ou moins produits et charges exceptionnelles, autres. Voyez, ça, c'est pas tout à fait les termes qui existent dans entre guillemets, le vrai tableau. On retrouve, il n'y a pas de souci, on retrouve évidemment les mêmes montants, mais je connaissant les candidats, je sais que certains d'entre vous ont pu être un petit peu ennuyés avec ça. Après, pour le reste, les opérations d'investissement, les opérations de financement, il n'y avait pas de souci, j'allais dire, au niveau de la forme. On comprenait bien ce que ça voulait dire. Alors, ceci dit, maintenant. Et c'est là où il ne fallait pas perdre énormément de temps, hein, surtout respecter la méthodologie, hein, voilà, parce que évidemment, on sait rapidement en commençant par la trésorerie à l'ouverture, la trésorerie à la clôture. Je vous rappelle que c'est ce que je vous conseille de faire systématiquement, de commencer par ces deux postes-là. Un, parce que c'est rapide à trouver. Deux, parce que comme ça, on sait combien on doit trouver dans la variation de trésorerie, c'est-à-dire puisque la variation de trésorerie, soit on la calcule en faisant trésorerie générée par l'activité plus celle générée par les investissements plus celle générée par les opérations de financement, soit en faisant la variation entre l'ouverture et la clôture. Ouverture-clôture, c'est très rapide à faire, donc on peut trouver tout de suite la variation. Et ça fait prendre quand même des points, vous voyez, c'est toujours l'idée de glaner des points rapidement, d'accord? Alors après, là je vais pas rentrer dans les détails avec mon commentaire audio de chacun des postes, hein, je vous les ai mis dans la correction, bon, ça il fallait savoir le faire. On était quand même, s'il y avait des doutes, aidés par le tableau de financement quand même, hein, qui était bien, qui était indiqué en annexe 5, donc ça a quand même donné des éléments pour gagner du temps. Donc bon, voilà. Mais là, le piège, c'était de passer 2 heures et demie là-dessus, quoi, pour essayer de l'équilibrer. Voilà, hein, c'est ça, je vous avais bien averti. À chaque fois, c'est toujours pareil, tous les ans, depuis 30 ans, c'est pareil. Les candidats veulent commencer absolument par ce tableau parce que c'est celui qui ou la partie qui rapporte le plus de points. Mais le piège, c'est d'y passer trop de temps au détriment du reste qui était plus facile et permettait de prendre des points plus vite. D'accord? Donc ensuite, il y avait donc, une fois qu'on avait fait ce tableau, un commentaire classique hein, sur un diagnostic financier environ d'une page. Bon, là, ils vont pas vous pénaliser si vous manquez de lignes ou si vous avez rajouté 3 lignes de plus. C'est pas ça qui va vous pénaliser. Bon, ben là, c'est vraiment du grand classique. Voilà. Alors évidemment, hein, comme je dis toujours, si vous ne faites pas du tout de commentaire, ben, vous aurez 0 point sur le commentaire qui était prévu. Si même votre tableau n'est pas équilibré, faites quand même un commentaire en précisant que vous allez faire le commentaire avec ce que vous avez trouvé, sachant que vous savez que votre tableau n'est pas équilibré. Toutefois, vous faites un commentaire avec ce que vous avez. Si vous êtes cohérent avec les chiffres que vous avez trouvés, je ne vois pas un correcteur qui se respecte de mettre systématiquement zéro pour massacrer le candidat s'il a été cohérent. Donc, vous voyez, c'est toujours ce genre de choses. Il faut essayer de glaner le maximum de points partout, 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 même si on fait pas les dossiers en entier, en partant de la première question jusqu'à la dernière pour chaque dossier dans l'ordre. Là, dans le jour de l'examen, il faut être efficace. D'accord? Donc, voilà ce que je pouvais dire hein, sur ces donc encore une fois sur ces 3 dossiers. Les dossiers 2 et 3, donc il y a eu 2 valaient 9 points, étaient à mon sens abordables, pour pas dire très abordables, en particulier le plan de financement. Franchement, le diagnostic financier c'était beaucoup plus compliqué à mes yeux, et surtout beaucoup plus long, parce qu'en fait, le reproche qu'on peut faire à ce, mais ça fait 30 ans qu'on le dit, et c'est toujours, rien ne change de ce point de vue, c'est que c'est beaucoup trop long à faire. Je demande à voir quelqu'un qui aurait 20 sur 20 et faire exactement tout sans erreur pour faire ça en 3 heures. D'accord? Donc si le reproche n'est pas tellement sur la difficulté, à mon sens, ou la intrinsèque du sujet, mais la longueur, et pour pouvoir le faire en 3 heures et avoir 20 sur 20. Là, ça devient compliqué. Mais pour avoir 10, c'était quand même honnêtement abordable. Hein, je vous dis, notamment ceux qui ont commencé par le dossier 2, puis le dossier 3, ça faisait déjà, je vous dis, sur 9 points pour moi, il y a 6 points qui étaient prenables tout de suite, et il reste 4 points sur 11 sur le diagnostic financier, sachant que à l'intérieur de ces 11 points, il y a quand même des questions de cours, etc., et que même dans le tableau lui-même à faire, il y a des points qui ne posaient pas de difficultés, il ne faut pas exagérer, d'accord? Donc, vous voyez, c'est en étant le plus objectif possible, en essayant d'être le plus objectif possible, c'était pas facile, c'était pas, notamment à cause de la longueur, hein, mais il était possible d'obtenir la moyenne, d'accord? Voilà, ben j'espère que ça a été le cas pour la plupart d'entre vous. Hein. Ceci dit, il n'y avait pas de hors programme ou de je ne sais quoi, donc c'était conforme au référentiel. De ce point de vue, il y a vraiment rien à dire. Donc il n'y avait pas de surprise, pas d'impasse par rapport au cours que j'ai pu écrire là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça s'est passé le mieux possible pour tous et qu'il y aura un pourcentage de réussite important. Voilà, bon courage à tous, à bientôt, au revoir.